Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 10h en temps universel. Les Maliens retournent aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. La finale oppose le chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, au candidat de l'opposition Soumaïla Cissé. L'opposition malienne a accusé le pouvoir d'avoir profité de l'insécurité dans le nord et le centre pour manipuler le vote au premier tour le 29 juillet. La mission d'observation de l'Union européenne a réclamé davantage de transparence ainsi que la garantie que tous les électeurs auront accès dimanche au bureau de vote, ce qui a valu un rappel à l'ordre du ministère malien des Affaires étrangères qui a demandé à l'Union européenne de ne pas entraver le processus électoral. Au Zimbabwe, la justice a accordé une libération sous caution à l'opposant Tendai Biti. Quelques heures auparavant, il avait été expulsé de Zambie après le rejet de sa demande d'asile politique. Abdourahman Dia.
La justice zimbabwéenne lui a accordé une liberté sous caution, assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques et d'une obligation de se présenter deux fois par jour à la police. La lutte continue, a lancé Tendai Biti à sa sortie du palais de justice à Harare. Il était arrivé plus tôt, menottes aux mains et sous forte escorte policière. La veille, il avait traversé à pied la frontière avec la Zambie. Lusaka lui a refusé l'asile avant de l'extrader vers son pays. M. Biti, 52 ans, ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale de 2009 à 2013, a été présenté au juge qui l'a accusé de proclamation illégale des résultats électoraux. Il avait annoncé que Nelson Chamisa avait remporté le scrutin du 30 juillet en défiant la commission électorale d'annoncer un résultat différent. Son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, va déposer aujourd'hui un recours contre ces résultats qui donnent la victoire au président sortant Emmerson Mnangagwa.
Réchauffement entre Paris et Kigali, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a estimé dans un entretien avec l'AFP avoir observé beaucoup de bonne volonté en France dans les rapports avec le Rwanda depuis l'arrivée au pouvoir en 2017 du président Emmanuel Macron. Les relations entre Paris et Kigali sont particulièrement tendues depuis près d'un quart de siècle en raison des accusations rwandaises sur le rôle joué par la France dans le génocide de 1994 au Rwanda, ayant fait quelque 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Madame Mushikiwabo est soutenue par la France pour devenir la prochaine secrétaire générale de l'OIF, qui sera désignée au sommet de la francophonie les 11 et 12 octobre en Arménie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Trois entreprises sud-coréennes ont importé du charbon et du fer de Corée du Nord, ont annoncé aujourd'hui les douanes sud-coréennes dans une apparente violation des sanctions de l'ONU imposées contre Pyongyang. Plus de 35 000 tonnes de charbon et de fer nord-coréens ont été ainsi importés au sud via la Russie entre avril et octobre 2017, a précisé un responsable des douanes. Tout navire qui est soupçonné d'avoir violé les sanctions de l'ONU sera immobilisé ou interdit d'entrer dans les ports sud-coréens. La Russie va considérer comme une déclaration de guerre économique l'adoption d'une possible deuxième salve de sanctions américaines et va réagir avec tous les moyens à sa disposition, a averti aujourd'hui le premier ministre russe. Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions économiques visant la Russie en lien avec l'empoisonnement d'un ex-espion russe à l'agent innervant au Royaume-Uni et évoqué la possibilité d'une deuxième vague de sanctions draconiennes dans le futur. Le Kremlin avait dénoncé hier l'annonce de la première salve de sanctions américaines qui porteront sur l'exportation de certains produits technologiques comme inadmissibles, inamicales et illégales et promis une riposte. Le référendum national sur le projet de nouvelle constitution à Cuba, qui reconnaît le rôle du marché et l'activité privée dans l'économie de l'île communiste, se tiendra le 24 février 2019, a annoncé hier la télévision nationale cubaine. Le projet sera discuté au préalable lors d'un débat populaire organisé du 13 août au 15 novembre dans les entreprises, les écoles et les universités et les quartiers auxquels ont été conviés à participer les quelques 1,4 million de Cubains émigrés ou exilés, une première depuis la révolution de 1959. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 55 minutes, vous aurez un nouveau journal. Merci de nous avoir suivis et surtout merci pour votre fidélité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Eric Manirakiza.